La Missa Assunta Est Maria de Marc-Antoine Charpentier par l'ensemble Anocte Temporis et le chœur de chambre de Namur dirigé par Reinhold von Mechelen. Il y a quelque chose de si logique d'entendre ces notes de Marc-Antoine Charpentier résonner dans la chapelle royale de Versailles, ce que la prise de son a, je trouve, magnifiquement mis en valeur. Temps pour les chanteurs et les instrumentistes d'aller faire une pause et pour le public d'aller profiter un peu des extérieurs du château de Versailles. C'est l'heure de l'entracte.
France Musique, le concert du soir, Christophe Dillis.
Plorate Fili Israel, extrait du Yefté de Carissimi par le consortium Carissimi, dirigé par Vittorio Zanon. Une façon de prendre une petite respiration avant le Tédéum de Louis-Nicolas Clérambeau qui terminera ce concert dans quelques minutes. Qui était Louis Gollard Duménil? C'est la question que pose le Centre de musique baroque de Versailles. Duménil n'est pas le premier haut-contre historiquement parlant, mais il est le premier à être devenu célèbre de son vivant. Les sources s'accordent à dire qu'il était cuisinier. Quand Lully l'a découvert, il lui fait faire ses débuts en 1677 et tout le monde est stupéfait par son jeu d'acteur, la puissance de sa voix et aussi sa capacité à tout apprendre à l'oreille puisqu'il ne savait pas lire la musique. Quelques siècles plus tard, Reinoud von Mechelen, le ténor de ce soir, haute contre avec son ensemble A Nocte Temporis, a décidé de rendre hommage à ce registre de haute contre, voix de ténor aigu. À ne pas confondre avec le contre-ténor, en lui consacrant trois enregistrements qui rendent tour à tour hommage à Lully, Rameau et Gluck. Pourquoi est-ce que je vous parle de Louis Gaulard Duménil ? Eh bien, puisque voilà, nous avons quelques minutes avant que l'orchestre ne revienne, je vous propose d'écouter un petit document concernant la voix lyrique française. Benoît Dradwicki, le directeur artistique du Centre de musique baroque de Versailles, s'est entretenu avec Reinoud von Mechelen en 2019 sur ce sujet. Et au passage, nous y apprenons quelques petites choses. Bonne écoute.
Faudra-t-il encore vous attendre, fière beauté qui régnait dans mon cœur?
Le projet de Reinoud, c'est un projet qui se développe dans le long terme, puisqu'il s'agit d'une trilogie autour de plusieurs chanteurs de l'époque baroque.
Ça fait très longtemps que je chante presque autant de partitions où c'est noté haute contre que ténor. Donc j'ai voulu mettre en lumière la voix d'haute contre parce qu'on connaît relativement peu. Donc c'est bien un ténor avec une facilité de monter dans les aigus. Ça fait très longtemps que ce beau projet était dans ma tête, mais bien sûr, un artiste ne peut pas faire ces choses tout seul. Et c'est pour ça que l'appui du CMVV était très important.
C'était très intéressant parce qu'en fait, c'est une période sur laquelle le CMVV travaille beaucoup. Et grâce à Reinoud, on a redécouvert des airs de Colas, des airs de Maramaré, des choses vraiment rares et qui en fait ont beaucoup plu au public et qui ont aussi beaucoup plu aux chercheurs et aux responsables chez nous chargés de l'édition des partitions. Le projet de Reinoud et de son ensemble, c'est de faire connaître la voix de haute contre au XVIIe, mais aussi au XVIIIe siècle, à travers plusieurs grandes figures successives de l'opéra. Et donc après Duménil, tu as choisi Géliot et Le Gros.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est intéressant de dire qu'au XVIIe siècle, les chanteurs n'avaient pas encore le même rôle qu'ils auront au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, on sent que la tragédie lyrique, c'est une pièce de théâtre, que les chanteurs sont des acteurs soumis complètement au livret et à servir le livret. Au XVIIIe siècle, ça change. Et après, j'ai choisi le personnage de Duménil car je voulais faire de la musique de Lully, mais aussi de ses contreparents.
Et il n'y avait pas d'autres hautes contres que Duménil à son époque?
À l'époque de Duménil, c'était en tout cas Duménil qui tenait les premiers rôles.
Quand on voit les partitions, on a l'impression que Duménil était quelqu'un de très raffiné, très sensible, parce qu'il chante des choses très élégiaques. Est-ce que c'est aussi le ressenti que tu as en chantant cette musique?
Quand je chante la musique, j'ai bien cette impression. Mais après, quand on lit quelques anecdotes, on lit autre chose.
Oui, c'est vrai. Alors donc, il était kleptomane, si je me rappelle bien. Il était ivrogne. À la fin, il était obèse. Il se comportait très mal avec ses collègues de l'opéra. Et je crois qu'il était aussi assez cupide parce que je crois qu'il allait souvent gagner de l'argent en Angleterre. Et c'est comme ça qu'il a perdu sa voix, si je ne me trompe pas.
Et en plus, il ne lisait pas la musique. C'est bien Lully qui a découvert sa voix. Il chantait pendant qu'il faisait sa soupe dans la cuisine. Et Lully a découvert sa voix. Il a essayé de lui apprendre la musique, mais il n'a jamais vraiment réussi.
Charmant que le trouble qui
Voilà, c'est avec cet extrait de concert filmé à Anvers avec Reinhold van Mechelen dans le rôle de Louis Gollard Duménie que se terminait ce petit documentaire du CMBV. Et c'est la fin de cet entracte.
France Musique, le concert du soir, Christophe Dillis.
Nous voici de retour dans la chapelle royale de Versailles pour le Te Deum de Louis-Nicolas Clérambault par l'ensemble de ce soir, les ensembles d'ailleurs, puisque A Nocte Temporis a invité un chœur dont les plus fidèles de France Musique entendent le nom assez régulièrement, le chœur de chambre de Namur, très très souvent invité par les ensembles instrumentaux baroques. Pour parler au mieux de ce Te Deum, il faut parler d'un lieu, la paroisse Saint-Sulpice. Au XVIIe siècle, la paroisse Saint-Sulpice, l'une des plus vastes de Paris, connaît un épanouissement spirituel sans précédent dû aux nombreuses communautés religieuses qui s'y installent. Ça, c'est la musicologue Catherine Sessac qui en parle. Mais la population fréquentait l'église régulièrement, les dimanches et les jours de fête, plus par habitude que par véritable conviction religieuse. En 1647, l'abbé Jean-Jacques Ollier s'y installe pour apporter un nouveau souffle et il décide de retravailler architecturalement la petite église Saint-Sulpice du XIIIe siècle, de plus en plus inadaptée. Ollier propose la construction sur le même emplacement d'un édifice beaucoup plus grand. Et c'est là où Clérambault intervient. Les différentes avancées de la construction étaient régulièrement saluées par de grandes cérémonies où la musique de Clérambault occupait une place prééminente. Ça, c'est toujours Catherine Sessac qui le raconte. L'achèvement de l'église suscita une semaine entière de fastueuse solennité, couronnée par celle du 7 juillet 1745, lors de laquelle fut très probablement exécuté le Te Deum à grand cœur au salut du Saint-Sacrement. Et je termine en vous lisant une source de 1745, pour le plaisir du voyage dans le temps. Après la bénédiction du Très-Saint-Sacrement, Monseigneur l'archevêque de Toulouse monta à son trône. Il entonna le Te Deum qui fut repris et chanté par toute la musique et conclut par l'oraison Pro Gratiarum Actione. On ne pouvait mieux terminer que par ce chef-d'œuvre de musique, l'une des plus accomplies productions du fameux Clérambault. Monseigneur l'archevêque de Toulouse donna ensuite la bénédiction solennelle. L'illumination du grand autel, du chœur et de toutes les parties de l'église parut avec d'autant plus d'éclat que la nuit était commencée. Ça, je le tire de la cérémonie de la dédicace et consécration de l'église de Saint-Sulpice à Paris par un sieur Le Mercier en 1745. Voici, par l'ensemble A Nocte Temporis et le chœur de chambre de Namur, le Te Deum de Louis-Nicolas Clérambault, dirigé par Reinhold van Mechelen.
Thank you.
L'extraordinaire et de plus en plus donné, heureusement, Te Deum de Louis-Nicolas Clérambault par les ensembles Anocte Temporis et le chœur de chambre de Namur. Je redonne les solistes de ce concert, Gwendoline Blondel dessus, Guy Cutting taille, Cyril Costanzo basse, Aurélie Morels deuxième dessus, Samuel Namot ténor et surtout le haut de contre et chef d'orchestre Reinout van Mechelen. Pendant que les solistes saluent, j'en profite pour vous donner quelques rendez-vous pour Anocte Temporis. Si vous êtes dans le département de l'Aisne, sachez qu'ils donneront la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach à l'abbaye de Saint-Michel en Thiérache ce dimanche 15 juin. Quant au chœur de chambre de Namur, ils donneront aussi la Passion selon Saint-Jean ce jeudi 12 juin à la basilique de Saint-Denis avec l'orchestre de chambre de Paris et seront le 15 juin dans Proserpine de Lully à l'Opéra Royal de Versailles avec les talents lyriques. Et Reinout van Mechelen revient devant ses instrumentistes et ses choristes pour nous accorder un bis. Magnifique musique de Marc-Antoine Charpentier. C'était le Miserere, extrait du motet pour les trépassés, donné en bis par le chœur de chambre de Namur et l'ensemble Anocte Temporis. Et ça met fin à ce concert qui a été capté par l'équipe suivante. Vincent Viltard, musicien metteur en onde, prise de son Stéphane Foulon, Thibaut Nassimbem et Olivier Leroux, réalisation Pierre Villers. Et bientôt 22h sur France Musique, j'ai tout juste le temps de remercier l'équipe de ce soir, Antoine Courtin à la réalisation et Mathieu Schmitt à la technique. Dans quelques minutes, les grands entretiens avec le chef d'orchestre Mico Franck. Et pour terminer, qui dit charpentier et tédéum pense forcément à ceci, et c'est le concert des nations de Jordi Savall qui nous l'offre.
Les légendes de la clarinette, par Nicolas Baldérou, un podcast France Musique.
J'ai le plaisir de vous proposer une série de podcasts intitulée Les légendes de la clarinette. Elle sera consacrée dans un premier temps aux grandes figures de l'instrument, celles qui ont marqué l'histoire aussi bien en classique qu'en jazz, puis aux compositeurs les plus emblématiques qui ont été inspirés par la clarinette, et enfin à la façon dont cet instrument populaire a conquis le monde.
Les légendes de la clarinette, par Nicolas Baldérou, 15 épisodes à écouter sur le site et l'appli Radio France.
France Musique augmentée. Toutes les émissions, les podcasts, des vidéos, 10 web radios, tout France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer.
France Musique.
22h sur France Musique. Bonne soirée à toutes et à tous. À notre écoute.
France Musique. Les grands entretiens